La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Depuis quelques années déjà, des observateurs pointent la crise du soin, du care, qui affecte peu à peu nos sociétés. Traditionnellement, le soin, s'occuper des enfants, prendre en charge les personnes les plus âgées, a reposé principalement sur les femmes, et ce, sans la moindre rémunération. Pourtant, cette fonction sociale est indispensable à l'équilibre des sociétés. Elle assure ce que Nancy Fraser appelle la reproduction sociale. Et c'est précisément cette reproduction sociale qui semble aujourd'hui déstabilisée par les évolutions du capitalisme. Dans la brillante conférence Marc Bloch, la 38e du nom qu'elle a prononcée ce mardi à la Sorbonne, Nancy Fraser, qui est philosophe et professeur à la New School à New York, a analysé les contradictions sociales du nouveau capitalisme dans lequel nous vivons. Nous revenons aujourd'hui avec elle sur cette conférence. Nancy Fraser, bonjour.
Bonjour.
Comme je le disais, vous êtes professeur à la New School for Social Research à New York. Vous venez aussi régulièrement en France, au moins depuis 5 ans, enseigner. Et cette année, on vous a proposé de prononcer une conférence importante, qui est la conférence Marc Bloch. Et vous avez choisi pour cette conférence de revenir sur une histoire du capitalisme et de ses contradictions, mais non pas des contradictions du capitalisme telles que on les entend en général dans la perspective marxiste, c'est-à-dire les contradictions économiques du capitalisme. Ça, tout le monde les connaît, elles sont enseignées à l'école depuis longtemps, elles sont intéressantes, elles n'ont pas toujours été aussi suivies des faits, peut-être que aurait pu l'espérer Marx et Engels en leur temps, mais vous pointez d'autres types de contradictions inhérentes au capitalisme au pluriel, j'ai envie de dire, et qui sont davantage des contradictions sociales. Qu'entendez-vous par là ?
J'ai l'idée qu'on est en train maintenant d'une crise multidimensionnelle, qui y compris, bien sûr, la crise économique, mais aussi crise écologique, crise politique, crise de la démocratie, et crise sociale, crise de la reproduction sociale. Et c'est ce dernier thème qui m'intéresse surtout. Mon idée, c'est, et ça vient plus de Karol Polanyi, l'autre Karl.
Plutôt, pas Marx, mais Polanyi.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est, il y a bien sûr des contradictions à l'intérieur de l'économie que Karl Marx a analysé, mais il existe aussi des contradictions entre l'économie et ses conditions, ses préconditions à l'arrière-plan. Et parmi ces préconditions, il y a cet terrain de les activités qui reproduit les liens sociaux. Et y compris l'élèvement des enfants, le soin des âgés, le travail domestique, tout ça.
Donc l'école, la aussi, santé, toutes ces dimensions de la vie sociale.
Toutes ces dimensions qui rendent possible le travail payé dans la sphère monétisée économique, qui n'existe pas sans cette arrière-plan de la reproduction sociale.
Alors, les contradictions sociales entre les conditions économiques du capitalisme et l'arrière-plan social dont vous parlez, elles ne datent pas d'il y a quelques années, elles ne sont pas récentes, elles ont au fond toujours existé, et d'ailleurs, Karl Polanyi, dont vous parlez, les a analysées. Simplement, elles évoluent au fil du temps. Elles ne prennent pas du tout la même forme en fonction des transformations du capitalisme lui-même. Et c'est ça qui est l'objet de votre analyse. Regardez dans une perspective historique, de façon à mieux comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui est une situation qu'on peut qualifier de critique, Nancy Fraser.
Oui, vous avez raison. Mon idée, c'est que Il y a dans le capitalisme, n'importe quel type de capitalisme, il y a toujours cette tension, cette contradiction, parce que l'économie officielle est orientée vers la croissance, 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 et ça a la tendance de déstabiliser ces conditions arrière-plan, la reproduction sociale, au même temps que le système relie absolument sur eux. Mais cette tension, contradiction, prend des formes différentes dans les différentes époques, périodes dans l'histoire du capitalisme. Alors, dans la période du capitalisme industriel libéral du 19e siècle...
Oui, ça c'est le premier moment sur lequel vous arrêtez. On va les reprendre et puis après on s'arrêtera plus longuement sur la situation contemporaine. Bon. Mais le premier moment du capitalisme, c'est ce 19e siècle, la naissance de l'industrie... Et les premières formes de ce capitalisme trouvent un accommodement, un arrangement, je dirais, avec la reproduction sociale qui prend quelle forme, selon vous?
Oui, selon moi, le problème, c'est que dans cette période, en effet, le capitalisme ne s'occupe pas de la reproduction sociale. On prend des gens, des villages, et on les met dans les usines et on dit, bon, s'occupe de tout ça vous-même. Nous, ce n'est pas notre affaire.
Et on a... Les femmes et les enfants aussi, d'ailleurs.
Les femmes sont aussi dans les usines, même dans les mines, aussi les enfants. Alors, il devient impossible dans ces conditions-là, d'élever une famille, de s'occuper d'une maison, d'une household. Il arrive une vraie crise de la reproduction sociale, même une sorte de panique morale chez les classes moyennes, les réformateurs, qui, bon, les femmes sont en train d'être désexualisées, la famille se casse. Et bon, à cette époque, on passe les lois protectives qui empêchent les femmes, les enfants de travailler au même terme qu'aux hommes. Et il y a aussi toute une idéologie de les sphères séparées. La famille doit être séparée de l'usine, de le bureau. La sphère doit être très solidaire, très sentimentale. L'autre très concurrente, très dure. Avec les relations exploitatives, etc. Cette, entre guillemets, solution, loi, législation protective, sphère séparée, en réalité, ne résout rien. Mais pendant quelques décennies, c'est le moyen de cope avec la tension.
Oui, cette tension, elle traverse toutes ces sociétés de manière différente. Elle est aussi peut-être rendue possible, cette situation, par le fait que ces sociétés occidentales reposent aussi sur des empires à l'époque assez considérables et des ressources extérieures. Et dans votre conférence, vous insistez beaucoup, vous replacez toujours ces sociétés occidentales dans un contexte plus global qui rende possible finalement des situations qui auraient été sinon intenables plus longtemps.
Oui, c'est vrai. Il y a des tensions très frappantes. On voit toute cette concern avec la famille dans les pays européens, Amérique du Nord, au même temps que vous avez des processus coloniaux qui détruisent les familles d'ailleurs. Et même aux États-Unis, on a l'esclavage au même époque où on vend des enfants, chacun dans une plantations différentes, séparées, on instrumentalise la capacité reproductive des femmes noires pour breed encore des esclaves. Et au même temps que on est scandalisé que les familles blanches se sont déstabilisées. C'est une grande ironie, à mon avis.
Et donc, on voit que cette tension entre l'économique et le social génère des formes de protestation politique qui vont en fait faire évoluer le capitalisme vers une autre un autre stade, une autre époque, qui est celle qui va véritablement voir le jour à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, grâce évidemment aux mobilisations très très puissantes des syndicats en particulier.
Oui, c'est vrai. Dans ma pensée, je crois qu'il y a des luttes qui s'occupent de ces questions de relations économie sociale, économie politique. Je les appelle luttes sur les frontières intérieures de la société. Et à mon avis, ils sont aussi centrales dans l'histoire du capitalisme que les luttes de classe dans Marx a parlé. Alors, ces luttes de la sur la frontière entre l'économie et le social qui est le site de beaucoup des protestations et c'est bien sûr ces protestations de temps en temps réussissent à transformer le capitalisme, à déplacer les frontières. Et c'est ça exactement qui est arrivé dans la période dont vous venez de parler. Et il arrive un autre type de la société capitaliste que j'appelle, c'est pas original à moi, le capitalisme géré par l'État, en contraste avec le capitalisme dit libéral. Et dans cette capitalisme géré par l'État, vous voyez que les parties importantes de la reproduction sociale sont internalisées. À ce moment-là, on ne dit pas, bon, les classes travailleurs, c'est vos affaires, nous, on n'en s'occupe pas. Non, on dit, bon, nous, on s'occupe, on va tout arranger, on va tout organiser.
Les services publics en particulier,
oui,
l'école, les hôpitaux,
l'État-providence,
etc. Voilà, donc l'État-providence finalement prend en charge une grande partie, pas tout, mais une grande partie de ce que vous appelez la reproduction sociale.
C'est
ça la solution de ce deuxième moment, en fait.
Oui, et c'est une solution beaucoup plus tenable que celle qui le précède, mais quand même, c'est très, comment vous dites, uneven, c'est-à-dire...
Très inégal.
Très inégal, oui, parce que pour un certain groupe de classe travailleur, on a ce qu'on appelle en anglais le salaire familial, c'est-à-dire on gagne assez suffisant pour qu'une seule personne...
Le revenu du ménage. C'est-à-dire le revenu du ménage vient d'une seule personne.
C'est ça.
Évidemment, l'homme. Et la femme reste à la maison. C'est en général la forme que ça prend. Parce que dans votre conférence, vous insistez beaucoup, mais ça ne surprendra pas ceux qui connaissent votre travail, puisque vous avez beaucoup écrit sur le féminisme, son histoire. Vous insistez beaucoup sur la manière dont les relations hommes-femmes et la place des femmes va évoluer au fil de ces situations, de ces différents moments du capitalisme. Dans cette deuxième période, les femmes sont effectivement plutôt renvoyées chez elles. On pourrait dire que même aujourd'hui, peut-être, à certains égards, la société allemande contemporaine ressemble encore le plus à ce modèle-là.
Oui, les pays européens les plus riches continuent à payer les salaires qui suffisent pour ça, autrement non. Oui, il y a des exclusions de genre, ça institutionnalise la dépendance des femmes, bien sûr. Il y a aussi souvent les exclusions de race, de nationalité, des minorités qui étaient exclues de plupart des provisions sociales. Aux États-Unis, on exclut, le New Deal exclut les gens qui travaillent dans l'agriculture et dans le travail domestique payé.
Et ça, alors, ça veut dire
quoi, c'est-à-dire les Afro-Américains. Exclu. Alors, et comme vous avez dit avant, tout ce système reste, ça continue sur le transfert de valeur de le pays sud, les colonies, les post-colonies.
Voilà, on passe avec la décolonisation à une autre relation néo-impériale, on pourrait dire, ou post-coloniale, où les pays riches continuent de vivre, mais autrement, je dirais d'une certaine façon, continuent de rendre possible ces arrangements entre économie et sociale grâce au type de relations qu'ils ont avec leurs anciennes colonies. Ça, vous y insistez bien aussi. Mais ce qui se passe à partir peut-être des années 1970-1980, on peut pas trouver vraiment un moment précis parce que les choses, vous le soulignez, sont très progressives. C'est le basculement vers un troisième type de capitalisme qui est le capitalisme financiarisé et globalisé aussi, qui va engendrer un nouveau type de relation entre l'économie et le social, un nouveau type de problème de reproduction sociale. Et c'est ça, principalement, qui vous intéresse aujourd'hui et que vous mettez en évidence dans cette conférence, Nancy Fraser.
Oui, c'est juste. Et je dirais que maintenant, il y a une convergence de développement qui nous mettent dans une situation tout à fait nouvelle, vraiment. Et bon, il y a le financiarisation qui met une pression intense sur les États pour désinvestir de la reproduction sociale, c'est l'austérité et des choses comme ça, le structural adjustment.
Les ajustements structurels qui font que l'État se retire de ses missions sociales, on va dire.
C'est ça. On vit un process où il y a une sorte de re-externalisation de la reproduction sociale. Au même temps, que ce capitalisme nouveau veut absolument que les femmes travaillent dans les sphères payées. Alors, on cherche le travail des femmes, on diminue les provisions publiques et on baisse le niveau des salaires qui requiert plus et plus heures de travail.
Pas seulement une seule personne dans le foyer qui travaille, mais deux personnes, voire davantage, dans certaines situations. Donc, en fait, cette externalisation par l'État, c'est-à-dire le rapetissement de l'État-providence, le fait que l'État se rétracte de ses missions sociales, cela va dans deux directions, dites-vous. D'une part, le fait de mettre sur le marché. En France, on dit privatiser certaines de ces missions qui touchent à l'éducation, qui touchent à la santé, par exemple, aux retraites, au chômage, etc. Et puis, l'autre chose, c'est, vous dites privatiser en anglais, mais la domesticisation, en quelque sorte, de certaines tâches qui touche aux soins, au care, c'est-à-dire en fait ceux qui ont les moyens, dites-vous, vont pouvoir acheter ces services auprès de sociétés privées, et ceux qui n'ont pas les moyens vont devoir gérer par eux-mêmes, à l'intérieur de la famille, ces tâches de soins.
Oui, c'est ça exactement. C'est une sorte de dualisation du care, si vous voulez. Une partie est marchandisée. Et bon, vous avez les migrants, surtout femmes, racialisées des pays, des régions pauvres, qui viennent soigner les enfants, les parents âgés, des personnes des classes moyennes et plus haut.
Elles viennent garder leurs enfants, oui. Garder les personnes âgées, etc.
Oui, et il y a toute cette migration, c'est une sorte de retour d'occupation de servantes dans les anciennes sociétés. Et au même temps, ces migrants sont obligés de laisser leurs enfants et leurs familles très loin, à l'autre côté du monde, en charge de quelqu'un d'autre. Et on a une véritable care chain, une chaîne de care,
de soins,
qui déroule parmi tout le monde. Aussi, ça, ce n'est pas une vraie solution, parce que ça ne remplit pas le care gap.
L'écart de soins.
Le gap. Oui. L'écart de soins, ça ne remplit pas ça, ça le déplace aux autres, aux les plus
désavantagés. Désavantagés, les plus défavorisés.
Ouais.
Alors ça, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, et le grand mérite de votre conférence, c'est de porter ce diagnostic, au fond. Mais ces évolutions sont relativement récentes. On voit qu'elles ont pour effet de brouiller aussi un certain nombre de repères intellectuels et politiques. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment que nous nous trouvons dans une situation où ces changements sont déjà très engagés, mais où la structuration du monde politique n'est pas encore le produit de cette nouvelle réalité. Et donc on a un décalage entre les discours politiques qui semblent de plus en plus décalés entre avec la réalité économique et sociale dans laquelle nous nous trouvons.
Oui, je suis absolument d'accord. On voit le grand parti du discours politique s'occupe des questions d'économie, de dette, d'écologie, et on met à côté toutes ces questions.
On laisse de côté
toutes ces questions sociales. Ils sont un peu mineurs et pas la grande question. Et même vous avez des mouvements féministes qui deviennent de plus en plus néolibérales, je dis. C'est-à-dire, ils s'occupent des problèmes des classes moyennes, comment les femmes très bien qualifiées, éduquées, pour have it all. Faire
tout avoir.
Famille, carrière.
Le beurre et l'argent du beurre, on dit en français.
Alors, il aussi laisse à côté les problèmes des grandes parties des femmes qui n'ont pas ces problèmes. Comment est-ce que je sois à la fois banquier et mère?
D'ailleurs, vous prenez comme exemple, au fond, ces sociétés américaines qui proposent à leurs employés femmes qui sont cadres supérieurs de procéder à la congélation de leurs œufs pour devenir mère, et pourquoi pas même à partir de 50 ans ou 60 ans, dites-vous, de façon à avoir une carrière avant.
Oui, c'est très frappant. Ça arrive de plus en plus aux États-Unis et peut-être ailleurs. Vous avez les firmes, les entreprises comme Google, Apple, Facebook, qui donnent cette procédure gratuite à leurs employés du haut niveau de qualification en disant, bon, attends pour les enfants, maintenant c'est travail pour nous. Hein. Et de plus en plus, les femmes s'intéressent à ça. Et pour moi, c'est un symptôme de cette tension, cette contradiction entre économie et reproduction sociale. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ce n'est pas seulement les femmes de haut niveau de qualification, c'est aussi l'armée américaine qui donne la congélation des œufs gratuite comme bénéfice aux soldats féminines. Et ça, c'est intéressant parce qu'eux aussi ont un manque de personnes pour envoyer dans tous les coins du monde pour guérir.
Donc là, on voit, ce sont au fond de nouvelles prises en charge par des firmes privées,
oui,
de ce que vous appelez reproduction sociale, au sens le plus précis du terme, pour le coup.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je mentionne aussi un deuxième symptôme. C'est je ne sais pas comment le dire en français, c'est l'utilisation des pompes mécaniques pour faire expresser, on peut dire
extraire. Alors, des pompes, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on dit pour les vaches, c'est des trayeuses. C'est des trayeuses, c'est le nom de ces machines qui permettent de traire les vaches de façon automatique. Et vous dites, aux États-Unis, il est en train de se développer, puisqu'il y a une pression très forte pour l'allaitement, mais ce n'est plus du tout l'allaitement traditionnel d'un bébé qui va se nourrir directement au sein de sa mère. C'est le lait maternel, mais extrait mécaniquement et vendu comme tel.
Oui, Et de plus en plus, parce que chez nous, c'est un peu différent de la France. On n'a pas le congé maternel
aussi long,
payé, ouais. Non? Et c'est très court, c'est souvent non payé. Et bon, c'est un autre symptôme de cette contradiction, production-reproduction, oui. Et les femmes sont obligées, on leur dit que le breastfeeding, c'est le plus bon pour le bébé et pour la santé, il faut le faire, mais on ne donne pas le congé, les moyens, et c'est encore l'industrie privée qui entre, qui dit, ah bon, mais nous avons la solution, voilà ces pompes mécaniques, et maintenant, le système médical de la santé, Obamacare, on peut le dire, donne gratuite ces pompes aux femmes qui travaillent. Et alors ça, vous avez une sorte de division, un partenaire privé-public pour éviter le problème de congé maternel pour éviter une vraie solution de cette tension.
Alors ça, on le voit à travers ces exemples qui sont à la fois très précis, mais qui sont très nombreux. Ces tensions prennent des formes très très différentes dans nos sociétés aujourd'hui, mais ne se traduisent pas toujours dans des clivages politiques portés par les militants politiques. Et vous insistez au fond, vous disiez tout à l'heure que certains mouvements féministes, au fond, portent le néolibéralisme aujourd'hui. On pourrait regarder les choses aussi du point de vue du clivage et des inégalités raciales aux États-Unis. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est comment reconfigurer un mouvement d'émancipation qui soit un mouvement d'émancipation commun à tous ceux qui sont aujourd'hui en position dominée dans le système.
Oui, ça c'est la question la plus grave, la plus importante, la plus difficile, il faut dire. Et mon avis, c'est qu'il continue bien sûr les luttes des classes, même s'il déroule plutôt en Chine que chez nous. Mais ça va continuer bien sûr, mais il faut lier ces luttes-là avec les luttes sur les frontières économie-société et aussi économie-nature, économie-politique. À mon avis, toutes les tensions sont constitutives pour la société capitaliste et surtout de notre époque, le capitalisme financialisé, où on trouve les tensions dans une forme très, très acue. Mais le problème ne résulte pas si on s'occupe d'un sphère coupée des autres. Il faut les comprendre comme partie constitutive de toute la totalité de la structure capitaliste.
Merci beaucoup Nancy Fraser. On trouve le texte de votre conférence Marc Bloch sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales, ou si ce n'est pas encore le cas, on le trouvera très bientôt. On trouve les références bibliographiques de vos ouvrages dont vous étiez venu parler à la suite dans Les Idées en 2005 et 2012, paru à la Découverte, sur la page de l'émission où vous pouvez également podcaster la suite dans Les Idées. C'était donc la suite dans Les Idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique Claire Levasseur, à la réalisation Ghislaine David. Et c'est Étienne Klein que l'on retrouve dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour la conversation scientifique.